Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h44, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. J'en profite pour saluer Charlotte qui nous écrit tous les soirs, lui dire que sa photo dédicacée va partir dès demain et qu'on l'embrasse bien fort parce qu'on sait, Charlotte, que la santé est un peu fragile et on pense à vous. Voilà. On accueille Claire Aurélie maintenant au 3921. Bonsoir Claire Aurélie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Claire Aurélie?
Dans l'Eure, du côté de Vernon.
De Vernon, d'accord. Et quel âge avez-vous?
45 ans et demi.
D'accord, 45 ans et demi. Très bien. De quoi allez-vous me parler, Claire Aurélie?
Eh bien, je vais vous parler des violences sexuelles que j'ai subies. Voilà, mon père m'a violée et ma mère a laissé faire. Voilà. Le témoignage lourd de nombreuses personnes et mon histoire.
D'accord. Ça s'est passé il y a longtemps. Quel âge aviez-vous?
Là, j'ai 45 ans, je vous disais. Donc oui, ça s'est passé dans ma petite enfance.
D'accord.
J'ai parlé à ma mère dès 10 ans et demi.
Aujourd'hui, je pense vous que... vous ne captez pas très bien. Vous pouvez vous déplacer? Parce que vous êtes dans un endroit... où je vous entends pas très bien.
Je suis dans mon bureau. Là, c'est bon.
Là, super.
Est-ce que c'est bien pour vous?
Très bien, super.
Super.
Vous me disiez, votre mère a fait celle qui ne voyait rien.
Voilà, j'ai parlé à 10 ans et demi et elle a laissé faire. Voilà.
Voilà. Elle a laissé faire. Vous avez parlé à 10 ans et demi. Que s'est-il passé?
En fait, quand j'avais 10 ans et demi, à la suite d'un échange avec une cousine, j'ai parlé à ma mère des violences sexuelles que je subissais.
Oui.
Alors bien sûr, j'utilisais pas ces mots-là. Hein, j'ai un peu de hauteur maintenant, mais elle m'a dit « je vais m'en charger, je vais régler le problème ». Et l'enfer a continué jusqu'au décès de mon père. J'avais 19 ans.
D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous avez géré ça avec votre mère tout le long de votre adolescence?
Tout le long de mon adolescence, je pensais qu'on vivait dans la même maison, en fait. Mais ma mère était quasiment pas présente. En tout cas, pour moi, j'ai retrouvé ma mère. J'avais à peu près 17 ans. Pour autant, c'était compliqué familialement. Elle m'a manipulée, en fait. C'est-à-dire que vous savez, c'est compliqué de vivre dans une famille incestuelle et incestueuse. Finalement, elle a pu me parler, mais en fait, pour se dédouaner, aujourd'hui je comprends sa souffrance, mais pour se dédouaner, elle m'a rendue responsable. Voilà, j'ai porté le poids de la responsabilité d'être restée avec mon père, parce que par exemple, je serais partie avec mon père si elle avait divorcé.
Oui.
J'ai porté aussi le poids de l'histoire qui s'est répétée au moins sur ma sœur. Voilà. Pendant longtemps.
Parce qu'il a fait ça avec votre sœur aussi.
Oui, à minima avec ma sœur, oui. Tout à fait. On a la même histoire.
Mais qui était plus jeune que vous, votre sœur?
Oui, 7 ans d'écart.
7 ans d'écart, d'accord.
7 ans d'écart.
Votre sœur a parlé ou pas?
Non, ma sœur n'a pas parlé. En tout cas, elle ne l'a pas clairement exprimé. On a été rassemblés par ma mère au décès de mon père. Et on pensait que cette histoire serait loin. En fait, on pensait que la vie allait reprendre. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne se rendait pas compte que ce qu'on avait vécu pendant toute notre enfance allait avoir un impact, un très gros et lourd impact sur nos vies, sur nos corps, sur notre psychique.
Ça, ça
sur
vous, vous ne le réalisiez pas à 18-19 ans
Non.
D'accord.
Non. Moi, j'en ai vraiment pris conscience qu'après 5 ou 6 ans de thérapie, et j'avais, quand j'ai... Bon, j'ai commencé plusieurs thérapies, mais la très grosse thérapie a eu lieu quand j'avais 32 ans et demi, justement, à l'âge où ma fille est née, à 10 ans et demi.
Ça veut dire quoi, comme ça, Claire Aurélie? Ça veut dire que jusqu'à ce que vous fassiez une thérapie, vous avez intégré que finalement votre père, vous avez violé, abusé de vous et votre sœur, et que c'était dans les us et coutumes des pères, en fait. Ou est-ce que vous aviez réalisé quand même que tout ça n'était pas normal?
J'ai vraiment pris conscience. C'était très compliqué pour moi, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que d'autres spécialistes que j'ai rencontrés pourraient l'expliquer plus facilement, mais moi je crois que je n'avais pas vraiment pris conscience du mot inceste, du mot de l'impact que peuvent avoir les violences sexuelles lorsqu'on les a vécues dans l'enfance. Et j'ai vraiment pris conscience de l'impact qu'après un très long travail personnel, je voyais les mots, plein de mots. Hein, j'étais, pour vous dire, donc au décès de mon père, je suis devenue boulimique anorexique, mais finalement, toute mon enfance a été j'ai été hospitalisée à l'âge de 2 ans pour une anorexie. Justement, aujourd'hui, moi, je fais l'écho de cette anorexie comme peut-être le départ d'un grave traumatisme, en fait, dont je n'ai aucun souvenir. Mais en tout cas, un enfant ne se laisse pas mourir de faim à 2 ans. Et moi, l'excuse qu'on m'a donnée, c'est « oui, tu étais jalouse de ton frère ». Sauf qu'aujourd'hui, en ayant fait plusieurs thérapies et plusieurs lectures et en formation en psychologie, la jalousie d'un nouveau-né n'engendre pas ce genre de mots. Ensuite, je me suis grattée à outrance. Aujourd'hui, on met en parallèle comme des scarifications, sauf que moi, je n'utilisais pas d'outils extérieurs, j'utilisais mes doigts. Mais toute mon enfance, j'ai jamais eu de peau sur mes jambes, sur mes fesses, sur mes bras. Tout ça, c'est des mots qui en disaient long. Mais tout ça, bien sûr, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je reconnais tous ces mots, MAUX, hein, bien sûr, dus aux violences, en fait. Et c'est aujourd'hui dans le travail que je fais au sein de l'association que j'ai créée, l'important, ce n'est pas forcément de connaître les détails de son histoire, parce que moi, je suis amnésique partiellement, je ne connais pas encore tous les détails, même si aujourd'hui, je sais que j'ai été violée, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas par combien de personnes, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a eu plusieurs personnes, pas que mon père, mais moi, ce qui est important pour moi, et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de témoigner ce soir, et sur une antenne comme la vôtre, c'est de dire que, en fait, notre corps, il n'oublie pas.
Oui.
Et qu'il y a plein de choses dont on ne sait pas la liaison entre les violences qu'on a subies et les maladies ou les conséquences sur notre corps, sur notre psychique ou notre relation aux autres même, qui sont dues entièrement aux conséquences des violences de manière générale et encore plus des violences sexuelles subies.
Oui, vous dites, on dit souvent aux victimes d'aller de l'avant, que c'est du passé, sauf que ce passé, il ne passe pas, ce traumatisme est ancré en elle à partir du moment où on salit le corps et l'âme et la conscience dès l'enfance. Vous dites, on est détruit de partout.
Vous savez, on dit souvent que les victimes... Moi, souvent, je dis qu'il faut parler parce qu'en fait, on est des bombes à retardement. Mais en fait, finalement, on a déjà explosé de l'intérieur. Et en fait, le fait de parler évite d'exploser de l'extérieur.
Mmh. Mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que vous évoquez de parler, encore une fois...
Oui.
Cette responsabilité-là, elle est encore rejetée sur les victimes. Et souvent, ces jeunes victimes, ces enfants. Moi, je dis ce soir encore sur cette antenne qu'il y a un vrai problème avec les abus sexuels, les agressions sexuelles, les viols dont sont victimes les enfants dans ce pays. J'ai l'impression que c'est tabou. J'ai l'impression qu'on a du mal à en parler. J'ai l'impression qu'on a du mal à l'évoquer. J'ai l'impression même qu'on n'écoute pas celles et ceux qui, à un moment, disent « J'ai été violé par mon père, mon frère, mon cousin, un ami de mon frère. » Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous alors, je vais le dire dès maintenant pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Association des enfants de Tamar, qui est une association qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles, parce que vous baignez un peu dedans. Quand je vous parle de tabou autour des agressions sexuelles faites aux enfants, qu'en pensez-vous ?
Ouais, c'est une réalité. Hein. On a beau... Oui, il y a de la parole qui se libère, mais finalement, on nous referme la bouche, on voit bien ce qui se passe. Alors, il y a des prémices. Hein. Le travail du juge Édouard Durand avec la CIVIS, avec Nathalie Mathieu, il y a de nombreuses associations qui luttent depuis très très longtemps et on voit d'où on vient. Mais on est quand même dans un déni, vous savez. Ce que je dis souvent, en fait, c'est très compliqué de sortir la tête du sable, parce que moi, quand je fais des interventions, quand je témoigne, quand j'alerte, je dis c'est 3 enfants par classe. C'est quand même 3 enfants par classe. Donc vous voyez,
c'est énorme.
Ça veut dire que si autour de nous avons 30 amis, filles ou garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont été victimes, et il y a aussi des femmes qui sont agresseuses, ça c'est aussi important de l'entendre. Sur 30 personnes que vous connaissez, 3 personnes sont victimes et peut-être qu'ils ne vous ont jamais parlé. Et moi, je vois bien, à un moment donné, avant que j'écrive mon premier livre, je me disais, non, mais c'est bizarre quand même. J'ai l'impression, autour de moi, ça doit être marqué sur ma tête, parce que j'ai l'impression, voilà, 2 de mes meilleurs amis, ma voisine, une paroissienne, une collègue. Et pourquoi ils viennent me voir ? En fait, ils viennent me voir parce que moi, je parle. Parce que moi, je dis qu'il faut en parler. Alors, bien sûr, hein, que ça fait des tsunamis dans les familles. Je ne vais pas le dire le contraire. Moi, ma propre famille m'a complètement rejetée. Aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, je sais de quoi je parle et je sais à quel point, moi-même, je souffre de cette situation. Pour autant, ces personnes-là, souvent, quand moi, ils m'appellent, c'est la première fois qu'ils peuvent en parler en toute liberté parce que je leur parle en toute liberté. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir été victime pour pouvoir accompagner des personnes victimes. Bien sûr, l'empathie et la compassion suffisent à essayer de se mettre à la place d'eux, même si c'est compliqué de savoir, et chaque histoire, en plus, est complètement différente. Mais c'est compliqué de se dire que, finalement, nos enfants ne sont pas forcément en sécurité au sein de nos familles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi-même, hein, j'ai dit à mes filles, surtout, vous ne sortez jamais toute seule, vous faites attention à la manière dont vous habillez, vous ne sortez pas dans les chemins, les ruelles sombres, faites attention. Mais sauf qu'aujourd'hui, 60% des viols sont commis sur des mineurs, et que dans ces 60%, 97% c'est dans la famille. Donc finalement, c'est jamais en sortie de boîte, jamais avec un inconnu, jamais dans une ruelle, au fond, ça c'est ce qui nous permet de nous, en tant que parents, de nous dire que nos enfants sont en sécurité. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de toutes nos familles et tous nos amis, parce que sinon, on va mettre nos enfants sous des bulles et c'est impossible. Mais aujourd'hui, on voit bien que toutes les... Même si aujourd'hui, il y a quelques histoires qui ont permis de parler de l'inceste, etc., on voit bien que... imaginez que son père ou sa mère, son frère, sa grand-mère, son grand-père, son oncle, son cousin puissent atteindre l'être le plus cher au monde, c'est-à-dire nos enfants. Et ça, c'est inconcevable. C'est pour ça qu'on est dans un déni. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère se dire que c'est pas possible. On préfère se dire que moi, je fais bien. Moi, mes enfants, ils sortent jamais.
Oui, on
moi,
préfère, ceci, moi, cela. On préfère en fait, se dire que peut-être... Ça n'arrive qu'aux autres. On va continuer d'évoquer tout cela avec vous, Claire Aurélie, pardon. Et on se retrouve après l'info, d'accord ?
Merci.
À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot « nuit » écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme Yvette ce soir, qui dit à Thierry que vous êtes le rusty de votre rintintin. Bonne continuation. Et merci, merci à vous Yvette pour vos nombreux messages. On est avec Claire Aurélie qui aborde ce soir avec nous la question de l'inceste. Claire Aurélie vient en aide aux enfants victimes de violences sexuelles. Elle a été elle-même victime de son père et elle est présidente de l'association des enfants de Tamar. On parlait du tabou, Claire Aurélie, autour de tout cela. Il y a un problème aussi en France, c'est que on ne s'occupe pas vraiment des agresseurs. J'entends par là qu'il y a un vrai problème parce que ces agressions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que quand vous êtes en séance de sensibilisation et de prévention dans les écoles, vous notez qu'il y a au moins 3 élèves qui vous font part d'attouchements, en tout cas d'agressions sexuelles, ce qui est beaucoup, et ce qui veut dire qu'il y en a sûrement 6 ou 8 pour 3 qui parlent. Je pense qu'on peut en rajouter 60% qui n'osent parler. Mais dans ce pays, est-ce que votre avis aussi, vous le partagez avec moi, on ne s'occupe pas des agresseurs, on ne les suit pas assez, on n'essaie pas de soigner le mal à la racine.
Alors déjà, il faut savoir que statistiquement, à peu près, au moins 40% des agresseurs ont été eux-mêmes victimes. En fait, il y a un vrai problème de formation. Je pense que, alors pour le coup, les agresseurs qui sont en prison, pour ceux qui le souhaitent et qui il y a les obligations de soins, etc., peuvent quand même plus facilement avoir accès à des thérapeutes que les victimes, en tout cas gratuitement.
Ouais. Reste déjà, à voir si vraiment ça se passe comme ça en prison. Hein.
Oui, enfin, non. Alors voilà. Après, il y a toujours cette démarche de volonté. Et puis, faire une thérapie à contre-volonté, on sait bien que ça n'a pas trop d'intérêt.
Mais vous évoquez une facilité plus grande pour les agresseurs d'avoir accès à des psys, ou en tout cas à des thérapeutes, ouais. plus pour eux que pour les victimes.
En tout cas, financièrement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des personnes où, en plus, on voit des schémas de répétition où... la maman a été victime, les enfants eux-mêmes ont été victimes, et il faudrait donc mettre maman, enfant 1, enfant 2, voire enfant 3 en thérapie. Qui a les moyens par semaine de faire une séance de thérapie par personne, et auquel en province il faut compter 50 euros, en région parisienne et à Paris il faut compter 80 euros la séance. Il y a peu de gens qui ont les moyens de faire ça sur une durée indéterminée, puisqu'en fait le trauma, on ne sait pas au bout de combien de temps la personne va pouvoir s'en passer et estomper les séances. Moi, au début, quand j'ai vraiment sombré, quand j'ai eu 30 ans et demi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré, par le biais d'un médecin nutritionniste, une thérapeute en CNP. J'étais à 3 séances par semaine. Heureusement, je ne les ai pas payées, parce que sinon, de toute façon, je ne les aurais jamais faites, en fait. Alors, c'est vrai que par rapport aux agresseurs, par rapport à d'autres pays comme le Québec, où ils ont un vrai programme et très peu de récidive, ils ont un vrai programme de prise en charge des agresseurs, on est très en retard et on a un fort taux de récidive. Ça, c'est une réalité. Il y a des choses qui sont mises en place, mais en fait, il y a une vraie problématique. Moi, j'ai dans le cœur que vraiment, il faut pas attendre que les agresseurs deviennent agresseurs, en fait. Nous, on a un projet dans l'association, c'est de construire une maison. Il y a des petites choses qui se passent. Hein. Par exemple, Nathalie Mathieu, la vice-présidente de la Civise, est à la tête d'une maison qui s'appelle la maison de l'association Jean Bru à Agen. Ça fait 20 ans, ou je crois au moins 15 ans, mais je crois que ça fait presque 20 ans qu'il existe. Une maison qui prend en charge des victimes. Et là, depuis que la Civise existe, il y a une autre maison qui va s'ouvrir à Paris avec un peu plus d'effectifs. Mais à Jeun, c'était 12 enfants. À Paris, je ne sais plus, je crois que c'est l'ordre d'une quinzaine d'enfants ou une vingtaine. Voilà, une maison pendant 20 ans qui a pris en charge 12 personnes pendant 20 ans, à savoir que tous les ans, il y en a 3 par an, enfin 3 par classe en moyenne. On imagine bien que ça n'a... Voilà. Moi, je pense vraiment qu'on peut permettre aux agresseurs de ne pas devenir agresseurs parce qu'ils vont pouvoir très tôt parler des violences sexuelles qu'ils ont subies. Parce qu'on ne naît pas agresseur, on le devient. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est quelque chose qu'on développe dans un environnement familial et souvent parce qu'on l'a subi. Donc, je pense qu'une prise en charge enfant serait la nécessité absolue, en fait. Aujourd'hui, je discute avec de nombreuses personnes et notamment des aumôniers de prison qui discutent avec des agresseurs. Et donc, autour de moi, j'ai ces prêtres qui me disent, il y en a qui pleurent et il y en a qui sont vraiment dans le déni. Mais en fait, moi, je vois comment ma mère fonctionne. Elle est aussi dans le déni, c'est-à-dire qu'elle nie pas ce qui s'est passé, mais elle est quand même dans une forme de déni. Et en fait, c'est tellement violent de s'apercevoir du mal qu'on a causé à autrui que le reconnaître nous ferait basculer dans une folie plus grande, voire même dans le suicide. Donc du coup, c'est très compliqué. Et il y a ce gros problème, en France, en tout cas, de formation. Aujourd'hui, dans un cursus psychiatrique, par exemple, c'est quasiment pas au programme. Je crois que c'est une demi-heure dans un programme de spécialité en psychiatrie et violences sexuelles. Celui qui va se spécialiser, c'est parce que lui va s'y être intéressé, va avoir des stages dans cette orientation, etc. En psychologie, c'est pareil. Et en plus, il s'avère qu'un certain nombre de grands penseurs de la psychologie, de la psychanalyse, comme Freud, par exemple, ont complètement occulté les conséquences traumatiques des violences sexuelles par des théories, parce que, par exemple, lui-même, Freud, a été victime de violences sexuelles. Donc, il y a plein de choses à revoir, à repenser dans la formation de base. Aujourd'hui, on forme des psychologues encore avec le concept que Freud a mis en place et qui est contre-productif pour les personnes victimes de violences sexuelles.
En tout cas, allez-y, pardon.
Excusez-moi. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Donc, je pense qu'une bonne prise en charge des victimes comme des agresseurs ne peut passer que par une remise en question de la formation de base pour qu'au moins les spécialistes de la santé aient conscience du trauma et des conséquences traumatiques, peuvent l'identifier. Les médecins généralistes, par exemple, sont démunis. Il va falloir un certain nombre de symptômes, et encore, eux ne vont pas avoir ce réflexe. Nous, moi, au sein de l'association et toutes les associations qui travaillent auprès des victimes de violences, et en particulier de violences sexuelles, on va cocher des cases, on va voir des symptômes. J'ai encore eu avant-hier une personne, elle me dit, voilà, dépression, suicide, scarification, telle maladie. Je dis, waouh. Mais en fait, quand on n'est pas formé, quand on n'est pas sensibilisé, bah, tous ces waouh, ces cases à cocher que nous, on coche quasiment naturellement, eh bien, plein de professionnels de santé, de l'environnement social, etc., ne les cochent pas. Donc c'est ça aussi qui est difficile.
En tout cas, vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur tout ce que Claire Aurélie nous a raconté ce soir, je vous rappelle qu'elle est présidente de l'association Les Enfants de Tamar, le site de l'association lesenfantsdetamartoutaccroché.fr. Et vous avez comme projet, donc le prochain objectif de l'association est d'ouvrir un lieu d'accueil pour les victimes de violences sexuelles, où elles pourraient être reçues en permanence. Cet endroit dédié pourrait permettre aux victimes d'être suivies par les différents professionnels de santé, psychologues, psychiatres et orthophonistes. Comme vous venez de nous le dire, nous manquons de personnes formées. Et vu le nombre de victimes, il est grand temps que l'on vous aide, vous, association, à panser les plaies de celles et ceux qui souffrent. Merci Claire Aurélie pour votre passage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On mettra l'adresse donc de l'association sur le groupe Facebook de la Libre Antenne pour que vous puissiez, vous qui nous écoutez, aller sur ce site. Merci Claire Aurélie.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Merci.